appelle régulièrement les responsables à la vigilance et à se rendre d'urgence dans un centre de santé dès l'apparition des symptômes. La fièvre, les maux de tête, vomissements, douleurs abdominales, urine foncée sont les principaux signes de l'hépatite E. Rappelons que c'est une maladie du foie provoquée par un virus qui se transmet par voie fécale orale, principalement via l'eau contaminée.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Terminons par une étude publiée le 1er juin dernier dans la revue médicale britannique The Lancet. Selon cette étude, la mortalité infantile des jumeaux reste beaucoup plus élevée que chez les autres enfants en Afrique subsaharienne.
En effet, plus d'un enfant issu de naissances multiples sur 5 décède avant l'âge de 5 ans en Afrique noire. C'est 3 fois plus que chez les autres enfants sans jumeaux, souligne l'étude. Cette tendance à la surmortalité des jumeaux n'est pas spécifique à l'Afrique subsaharienne. Selon les régions, les jumeaux ont 2 à 5 fois plus de risques de ne pas atteindre l'âge de 5 ans. C'est notamment lié au fait que les grossesses gémellaires présentent plus de risques de naissance prématurée, de faible poids du bébé ou de complications à l'accouchement.
Mais cette disparité revêt une gravité particulière sur un continent où l'on trouve à la fois des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde et la plus forte proportion de naissances multiples naturelles.
Si l'on ne porte pas une attention spécifique à cette population vulnérable, il sera très difficile d'atteindre les objectifs de mortalité infantile fixés dans l'objectif de développement durable de l'ONU, a averti Jérôme Smith, co-auteur de l'étude. Pour continuer à réduire la mortalité infantile en Afrique subsaharienne, il faut donner la priorité au diagnostic précoce des grossesses gémellaires et permettre à davantage de femmes enceintes de jumeaux d'accoucher à l'hôpital, a déclaré à l'AFP Christian Modène, l'autre co-auteur de l'étude. Il a toutefois reconnu qu'il y avait d'importants obstacles financiers et culturels pour atteindre ces objectifs.
Merci Firmin.
Santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Le virus Ebola, découvert en 1976 en République démocratique du Congo, continue à faire des victimes, d'autant plus que 41 ans plus tard, il n'y a toujours pas de médicaments ni de vaccins homologués contre cette redoutable fièvre hémorragique. Mais l'espoir demeure et la recherche se poursuit. Une dizaine de candidats vaccins sont à l'étude et parmi ceux-ci, le RVSV Zebov. Ce candidat à vaccin avait déjà été testé en Guinée auprès d'environ 5000 personnes en 2015. Les tests s'étaient avérés globalement positifs. À la fin du mois de mai, les autorités de la République démocratique du Congo ont autorisé l'utilisation de ce candidat vaccin sur leur territoire alors qu'une épidémie d'Ebola a fait au moins 4 morts dans le Bas-Uélé, une province du nord du pays. Mais ce vaccin ne sera utilisé que si de nouveaux cas sont découverts. C'est ce que nous explique le docteur Marie-Paul Kieni. Elle est sous-directrice de l'OMS en charge des systèmes de santé et des innovations. Et fait d'abord le point de la recherche des vaccins contre la maladie.
Il y a un certain nombre de candidats vaccins. Il y en a une bonne douzaine même qui sont en phase d'évaluation. Et à différents niveaux d'évaluation. Alors, dans le plus avancé, il y a le vaccin VSV Zebov, donc qui a été testé par l'OMS et des collaborateurs en Guinée en 2015. Il y a quelques autres vaccins qui ont été utilisés aussi chez l'homme et testés chez plusieurs milliers de personnes, comme ceux des vaccins qui sont développés par la société GlaxoSmithKline ou Johnson & Johnson. Et il y a aussi d'autres vaccins qui sont beaucoup plus en amont, disons, dans le développement. Donc, on a une panoplie assez large de vaccins qui ont un potentiel important pour pouvoir prévenir la maladie à virus Ebola.
Vous venez justement d'évoquer le RVSV Zebov qui avait été testé en Guinée et qui avait présenté des résultats assez satisfaisants, mais il n'est pas encore aux dernières nouvelles homologué par l'OMS. À quel niveau se trouve ce vaccin exactement?
Alors, il faut savoir que l'OMS n'est pas une autorité de réglementation des médicaments. Alors, les vaccins sont enregistrés par des autorités de régulation qui sont en général nationales. En Europe, je dois dire qu'il y a donc l'agence du médicament qui est européenne, donc ça peut être régional aussi. Mm-hmm. Et ce sont ces agences qui enregistrent les médicaments et les vaccins. Alors, le RVSV Zebov est en cours de... le dossier est en cours d'examen à la fois par la FDA américaine et par l'Agence de réglementation des médicaments en Europe. Et ce sont donc ces agences qui devront homologuer ou non le vaccin. Alors, ce que fait l'OMS à partir de là, l'OMS a une procédure qui s'appelle préqualification, qui est donc une procédure qui revoit l'applicabilité particulière des vaccins pour les pays du Sud, qui regardent par exemple la stabilité, la température, etc., pour s'assurer que les vaccins ou les médicaments sont bien utilisables dans des conditions où le stockage, où les températures d'utilisation ne sont pas les mêmes qu'en Amérique du Nord ou en Europe. Alors, le laboratoire Merck, qui produit ce vaccin, qui est propriétaire, disons, de ce vaccin, est en train de finaliser les dossiers d'enregistrement, parce que ce sont des dossiers très, très lourds, très, très longs, qui ne contiennent pas seulement les résultats de l'essai guiné, mais beaucoup de données pharmacologiques, de données chez l'animal, etc. Et donc, on peut espérer avoir une réponse des autorités de réglementation en 2019. Alors, l'OMS a une procédure en place qui vise à avoir un avis en cas d'urgence. Et donc, la procédure pour le vaccin RVSV-Zebov est en cours également. Et on devra avoir un résultat dans les semaines qui viennent.
Alors, les médias ont annoncé cette semaine que le vaccin a été autorisé par les autorités congolaises. D'abord, est-ce que vous confirmez cette information? Et si oui, qui sera concerné par la vaccination et comment sera implémenté ce projet de vaccination?
Alors, ce que les autorités congolaises ont autorisé, c'est l'utilisation de ce vaccin dans un schéma qui est très proche du schéma qui a été utilisé en Guinée, donc qui s'appelle la vaccination en ceinture, dans lequel on vaccine autour d'un cas d'Ebola confirmé. On vaccine donc les personnes qui ont été au contact de cette personne, donc qui pourraient être contaminées, de même que les personnes qui ont été en contact avec les contacts. Donc, ça vise à protéger de façon prioritaire, je dirais, les contacts des contacts pour éviter d'avoir une dissémination de l'Ebola. Alors, ce n'est pas un essai clinique. Ça s'inscrit dans un cadre réglementaire du FDA américain qui s'appelle Extended Use. Donc, ça veut dire un usage étendu par rapport aux essais cliniques. Alors, il faut savoir que depuis maintenant pas mal de jours, il n'y a pas eu de nouveaux cas confirmés d'Ebola dans la région de Likati, la République démocratique du Congo. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que maintenant qu'il y a cette autorisation, s'il y a un nouveau cas, la vaccination va se placer pour immuniser les contacts et les contacts des contacts. En absence de nouveaux cas d'Ebola, il n'y aura pas de vaccination.
Comment agit ce vaccin dans l'organisme? Et au moment où vous l'administriez en Guinée, est-ce que vous avez noté des effets indésirables?
Quand nous étions en Guinée, nous avions des collègues qui avaient trouvé une façon imagée pour essayer de faire comprendre à la population comment marchait ce vaccin. Et donc, je vais essayer de vous la proposer. Alors donc, le vaccin, le virus Ebola, c'est un virus qui est très dangereux et qui porte à sa surface, il a un manteau, hein, qui a la couleur de l'Ebola. Alors, le vaccin qu'on utilise, c'est un vaccin qui est un virus qui n'est pas dangereux pour l'homme, mais sur lequel on a mis le manteau du virus Ebola. Alors, ce qui passe, quand on vaccine quelqu'un, la personne qui est vaccinée va faire une réaction immunitaire, donc va monter ce qu'on appelle des anticorps et une réponse qui est dirigée contre le manteau, hein, de ce virus Ebola. Alors, le vaccin n'est pas dangereux pour l'homme, puisqu'il est basé sur un virus qui, lui, n'est pas dangereux, et on n'a que le manteau du virus Ebola. Alors, comme les gens qui ont été vaccinés, si elles sont infectées plus tard par le virus Ebola, qui viendra avec ce même manteau, elles auront déjà tous les anticorps et tous les mécanismes pour reconnaître et pour s'attaquer à ce manteau. Donc, si les personnes sont infectées par le virus Ebola, ils vont le reconnaître et le détruire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, le vaccin est basé sur un virus qui n'est pas pathogène et qui présente à l'extérieur toutes les caractéristiques du virus Ebola. Alors, ce vaccin a déjà été administré à plus de 16 000 personnes en Guinée et ailleurs, et il a été dans l'ensemble bien toléré. C'est-à-dire, il n'induit pas chez l'homme des réactions qui sont dangereuses. Alors, bien sûr, il induit, comme beaucoup d'autres vaccins, certaines réactions d'intolérance, surtout au début. Et ce vaccin en particulier est capable d'induire de la fièvre chez les gens vaccinés, chez un nombre assez important, un quart à peu près, de la fièvre ou des maux de tête ou des frissons. Ce sont les réactions les plus communément rencontrées. Mais la plupart du temps, ces réactions sont de courte durée. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la sécurité de ce vaccin est suffisante pour qu'on envisage son utilisation à large échelle.
quelles dispositions prendra l'OMS pour sur les cas éventuels d'effets indésirables et de complications qui pourraient survenir au Congo ou dans d'autres pays à l'avenir?
Alors, dans cette procédure qu'on utiliserait éventuellement donc en République du Congo, qui s'appelle Expanded Access, donc accès élargi, hein, le protocole prévoit d'avoir des visites de suivi au jour 3, 10, 21, 42, 63, 84. Donc, tous les gens qui sont vaccinés seraient suivis donc à intervalles réguliers, de façon à pouvoir documenter encore la sécurité du vaccin à travers ses utilisations pendant tout le temps où le vaccin n'est pas encore homologué.
Nous remercions le docteur Marie-Paul Kieny qui nous répondait depuis le siège de l'OMS à Genève, en Suisse.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
Le RVSV Zebov est le candidat vaccin le plus avancé dans la recherche d'un vaccin contre Ebola, mais une dizaine d'autres sont en cours d'expérimentation. Les essais cliniques pour tester l'efficacité d'Ebovac se déroulent en Europe, mais aussi dans plusieurs pays africains. Pour savoir comment se recrutent les volontaires, comment se passent les essais et le dispositif prévu pour faire face aux effets indésirables et complications éventuelles, nous avons contacté le professeur Rodolphe Thibault. Il est épidémiologiste et coordonnateur du projet Ebovac 2. Pour commencer, il nous explique comment se recrutent les volontaires.
Le principe est de chercher des participants volontaires pour des essais cliniques qui sont en fait des essais de phase 2, puisque le projet Ebovac 2 est donc un projet européen en collaboration avec les laboratoires Janssen dans le cadre d'un financement IMI. Et en fait, on mettait en œuvre deux essais. On met en œuvre deux essais, un essai en Europe et un essai en Afrique, qui sont des essais de phase 2, donc qui sont étudiés chez des volontaires sains, chez qui on va regarder la réponse au vaccin. Et donc, le choix des volontaires, en fait, c'est essentiellement d'abord volontaires qui répondent aux critères d'inclusion. Et donc, c'est des personnes qui n'ont pas de pathologie sous-jacente et qui seraient une population potentiellement cible pour les vaccins. Ça, c'est une première population de choix, en particulier en Europe. C'est la population sur laquelle on a travaillé. Et en Afrique, on a sélectionné une population donc à la fois d'adultes ne présentant pas de pathologie et aussi d'autres populations, notamment des patients infectés par le VIH. L'idée étant que potentiellement, en cas d'épidémie Ebola, c'est aussi une population qu'il faudrait vacciner et on voulait s'assurer qu'on puisse avoir une bonne réponse du vaccin également chez ces patients. Et puis, on a également mis en œuvre l'essai chez des adolescents et des enfants pour vérifier également la bonne réponse dans ces populations qui seraient vaccinées en cas d'épidémie. Le recrutement des volontaires, en général, s'adapte en fonction du site dans lequel on travaille. Mmh. Comme vous le savez, on a démarré cette initiative dans le contexte où l'épidémie était encore en cours en Afrique de l'Ouest. Et donc, on a profité de la voie de presse, en fait, pour informer les gens qui entendaient parler déjà d'Ebola. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne méthode pour pouvoir trouver des volontaires participant à l'essai. Et en Afrique, le mode était assez différent. On a plutôt travaillé sous un mode communautaire, c'est-à-dire que en fait, les gens qui organisaient l'essai sur place, dans chaque site, allaient vers les communautés pour leur parler de la problématique, leur parler de l'essai. Et il y avait des relais au sein des communautés, et les gens en parlaient, et ensuite on leur disait, si vous êtes volontaire, vous allez pouvoir vous présenter dans tel ou tel site.
Dites-nous comment concrètement ça s'est passé en Afrique. C'était dans quel pays? Comment avez-vous procédé après avoir recruté les gens? Parlez-nous de cette expérience pratique-là en Afrique.
Nous, comme on était encore une fois dans un développement, ce qu'on appelle une phase 2 dans les essais cliniques, donc en gros, on a passé une première phase d'essais cliniques qui montrait que le vaccin était bien toléré. La phase 2, c'est regarder sur un plus grand nombre comment ça marche. Mais ce n'est pas la phase suivante, qui est une phase 3, qui est en cas d'épidémie, regarder si le vaccin est efficace et protège bien. On était en amont de cela. Donc on s'est placé dans des pays où l'épidémie n'était pas en cours, mais qui pouvaient potentiellement être concernés, bien sûr, par Ebola. Et on voulait à la fois avoir des pays représentés en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Donc là, on a travaillé en fait avec des sites que nous connaissions dans le cadre du consortium. Donc déjà, au niveau du consortium même, au Burkina Faso, le Centre Muraz est un partenaire de notre consortium, donc du projet global. Donc bien sûr, ça a été, c'est également un site. Mais par exemple, au Burkina Faso, nous avons un autre site dirigé par Thierry Massot-Diomont. Ensuite, nous avons aussi deux sites en Côte d'Ivoire parce que notre centre de recherche travaille beaucoup aussi avec la Côte d'Ivoire. Donc, nous les connaissions bien et nous avons mis en œuvre l'essai aussi à cet endroit. Et puis ensuite, les deux autres sites, donc il y a deux sites en Ouganda et un site en Tanzanie, qui sont en fait des sites qui ont l'habitude de travailler sur les développements vaccinaux et qui d'ailleurs avaient participé à une première phase qui avait été faite auparavant sur le développement du même candidat vaccin, développé avec Janssen. Qui est d'ailleurs, j'en profite pour le dire à ce moment-là, différent du vaccin, vous savez qu'il y a plusieurs candidats, et qui est différent du vaccin VSV développé par ailleurs et qui avait été testé en Guinée.
Cette phase pratique-là nous intéresse, est-ce que vous pouvez nous la raconter ?
Oui, monsieur. Alors ce qui se passe, donc une fois qu'on a, on informe les gens viennent sur la base du volontariat, et la première chose qu'on fait, c'est vérifier l'éligibilité du participant. C'est une phase de ce qu'on appelle de screening, on fait une prise de sang, on vérifie que tout va bien, et là on définit, on dit, bah voilà, oui, effectivement, vous êtes éligible, vous pouvez être inclus dans les faits. Et donc, il est reconvoqué pour une autre visite. Et cette visite suivante, il va donc y avoir un tirage au sort pour savoir s'il va recevoir le vaccin ou recevoir en fait un placebo, puisqu'on était encore en comparaison à un placebo, pour vérifier que ça marche bien par rapport à rien du tout, bien entendu. Et ensuite, on suit le patient, donc le participant, pardon. Donc, il va avoir entre 9 et 15 visites. Ça dépend, en fait, si on proposait aussi des sous-études pour aller un peu plus loin dans l'évaluation de la réponse immunologique au vaccin. Et au cours de ces différentes visites, on va vérifier qu'il est bien toléré, qu'il ne présente pas de soucis particuliers. On va aussi mesurer, faire des prises de sang pour vérifier donc la réponse immunologique avec à la recherche de certains marqueurs biologiques dans le sang. Et on va faire ce suivi comme ça pendant un an.
Alors, nous avons appris par voie de presse que l'un des volontaires a eu des effets secondaires, a été atteint d'une forme rare de maladie touchant les nerfs crâniens et vous avez été obligé d'interrompre les essais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment avez-vous géré ce cas? Et puis, comment envisagez-vous la suite?
Nous, on avait mis dans le protocole, c'était écrit, que s'il se passe quelque chose de sérieux ou qu'on ne comprend pas, dans ces cas-là, on arrête l'essai, on vérifie ce qu'il en est et ensuite, on reprend. Et quand je dis on vérifie, c'est à partir avec des expertises, avec un comité indépendant. Et donc, typiquement, c'est ce qui s'est produit là. Le participant a eu un certain nombre d'expertises pour vérifier si c'était potentiellement lié au vaccin, si c'était grave, etc. Et ensuite, à la suite de ces expertises et de l'avis du comité indépendant, en fait, l'essai a repris. Et bien sûr, le participant, lui, il est pris en charge cliniquement normalement, mais aussi suivi par la suite. Et là, en l'occurrence, ce type de pathologie, c'est transitoire. Donc là, maintenant, il va parfaitement bien. Et surtout, la conclusion ici des expertises, c'est que ça ne pouvait pas être incriminé. Il y a une forte chance que ça n'était pas du tout lié au vaccin, d'où la reprise, en fait, de l'essai. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive pendant un essai, même si ce n'est pas du tout lié au vaccin, on a une sorte de responsabilité vis-à-vis des participants et donc on doit se préoccuper de tout ce qui peut arriver. Et même s'il y a un accident de la route, par exemple, eh bien, on se préoccupe, bien entendu, du participant dans le cadre de cet essai, quand bien même c'est complètement indépendant du vaccin.
Donc, à l'heure qu'il est, vous poursuivez vos essais cliniques et quelles sont les prochaines étapes ?
Tout à fait. Mmh. Alors, écoutez, donc en fait, les inclusions, comme je vous disais, des différentes populations, donc d'adultes, patients infectés par le VIH, adolescents et ensuite enfants, se font par paliers, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par les adultes, ensuite les adolescents, ensuite les enfants. Et là, aujourd'hui, on a recruté totalement les adolescents tels qu'on avait prévu et on va passer donc à l'inclusion des enfants, puisque tout va bien sur ces premières inclusions d'adultes et d'adolescents. Et donc maintenant, on passe aux enfants. On est, pour vous donner aussi quelques chiffres, là, dans cet essai, donc sur ces différents pays que je vous ai cités tout à l'heure, on en est au jour d'aujourd'hui à 943 personnes vaccinées.
Nous remercions le professeur Rodolphe Thibault qui nous répondait depuis l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. N'oubliez pas, si vous avez des questions pour nos invités, contactez-nous sur la page Facebook de l'émission « Votre santé, votre avenir ». « Votre santé, votre avenir » s'écrit sans accent et en un seul mot.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Cette semaine, notre correspondante Gabrielle Nina a recueilli les questions auprès de nos auditeurs de Lubumbashi en RDC. Nous avons sélectionné l'une de ces questions et notre consultant, le docteur Amangenkap, y a répondu. Le docteur Amangenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour docteur.
Ma question est de savoir, la guérison dépend-elle seulement des médicaments ou elle dépend aussi de l'état psychique de la personne ou de la psychologie de la personne, du fait que la personne a le médicament et il se dit que si je prends ce médicament, je serai guéri ou c'est juste le fait de prendre des comprimés qui assure la guérison?
Ce que je peux répondre à cet auditeur, c'est que dans le processus de guérison, la prédisposition psychologique de la personne à accepter son traitement, désir de la personne à guérir, a une importance capitale, car on peut être guéri juste par la seule conviction de se sentir guéri. C'est d'ailleurs un effet qui porte le nom de effet placebo, qui est bien connu de la médecine. Placebo étant cette substance pharmacologiquement inactive qui est délivrée dans le cadre d'un essai clinique afin d'apprécier l'efficacité, par exemple, d'un médicament. On constate qu'environ 40% des personnes vont connaître une guérison rapide alors que ces personnes ont eu ce placebo, à savoir cette substance qui, logiquement, n'a aucun effet pharmacologique. Mais paradoxalement, les médecins vont constater rapidement une guérison des personnes qui ont pris cette substance-là, contrairement à ceux qui auront pris le médicament qu'on est en train de mesurer. Donc, c'est pour dire que la guérison s'obtient, certes, par le biais des médicaments, mais plus rapidement grâce à l'apport d'une bonne prédisposition psychologique. Et cette guérison, d'ailleurs, est d'autant plus rapide lorsque la relation entre le médecin et le malade est bonne, lorsque le malade a confiance à son médecin, lorsqu'il a confiance à son traitement, lorsqu'il a un fort espoir de guérison, et surtout, lorsque ce malade-là est dans des bonnes prédispositions psychologiques pour accepter sa guérison, pour accepter son traitement, et bien évidemment pour suivre les conseils médicaux que va lui prodiguer le médecin dont il a confiance. Voici ce que je pourrais répondre à ce auditeur concernant la guérison et l'état psychologique des personnes.
Merci docteur.
C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à la recherche et l'expérimentation des vaccins contre Ebola. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Marie-Paul Kieny. Elle est sous-directrice de l'OMS en charge des systèmes de santé et des innovations. Et nous a expliqué le déploiement prévu pour l'utilisation d'un vaccin expérimental en RDC. Nous avons également écouté le témoignage du professeur Rodolphe Thibault, épidémiologiste et coordonnateur du projet EBOVAC 2. Avec lui, nous avons évoqué les essais cliniques en cours dans plusieurs pays africains pour tester l'efficacité du candidat vaccin EBOVAC. Notre consultant, le docteur Amangenkap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons merci.
Merci aussi à Firmin Koyaweda qui était là, comme toujours, pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à notre correspondante Gabrielle Nina Lumumbashi en RDC qui a recueilli les questions des auditeurs. Aiden Utko était à la console et Georges Léonard Sagno signe la réalisation de cette édition. À la présentation, vous étiez avec Mamadou Oumfa et j'étais en compagnie de
Rosine Mounezero.
Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À la prochaine.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique.
Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOAfrique.